Père éternel, merci. Merci Seigneur pour cette belle journée qui commence. Merci pour le soleil à l'extérieur. Merci pour l'Église qui s'en vient pour étudier ta parole, pour chanter tes louanges. Seigneur, on a besoin de toi ce matin. On a besoin de toi dans nos vies à chaque jour. Puis tu es là. Tu es là pour nous. Alors on te demande de venir te manifester ce matin à travers les cours, mais à travers la louange tantôt, à travers les chants, à travers la communion fraternelle aussi, les gens qui saluent, qui prennent des nouvelles, qui... s'inquiètent les uns des autres. Je te demande, Seigneur, de nous aider à être ensemble vraiment l'Église, l'Assemblée de Dieu, les uns pour les autres. Viens nous bénir ce matin alors qu'on continue à étudier, Seigneur, la prière dont on a tellement besoin dans nos vies. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Bon, on va essayer d'y arriver. Alors, on est dans le cours « Que les nations se réjouissent » et ce matin, on termine la deuxième portion sur la prière. Juste avant d'aller parler de la prière, on va parler un petit peu de certains de nos missionnaires qu'on soutient financièrement ici à l'Église. Alors, c'est deux personnes qui sont chères à mon cœur, puis à l'histoire de cette Église-ci aussi. Il s'agit de Richard et Janice Hull. Alors, Richard a été pasteur à l'Église ici. Là, j'essayais de retrouver les dates, puis... pas le temps de vérifier, mais il a été pasteur à l'Église, je crois, 7 ans, si je me trompe pas. Pardon. Et puis, en fait, moi, personnellement, c'est lui qui était pasteur lorsque je me suis converti. Donc, ça a été vraiment un père spirituel pour moi. J'ai eu le privilège, à cause de mon aspiration au ministère, d'être pris sous sa tutelle très, très vite. Excusez. Et donc, il s'est investi vraiment dans ma vie. Puis, on a continué cette relation-là plus tard aussi. Il y a quelques années, il m'a coaché pendant... environ 5 ans, puis avec Esther, tout ça. Donc, ça a été vraiment une grande bénédiction. Richard et Janice sont dans le ministère depuis des années. Sur la feuille, vous avez vraiment les détails, mais je vais vous donner un petit survol, puis je vais vous parler davantage de leur ministère actuel, d'accord? Pour qu'on puisse prier pour eux, c'est pour ça, le ministère actuel qu'on les soutient, évidemment. Donc, Richard, très, très tôt, je pense à 19 ans. Si je ne me trompe pas, c'est peut-être 21 ans, s'est retrouvé pasteur, d'accord? C'était vraiment dans la période du réveil au Québec. Donc, en 1975, il a commencé l'implantation d'une église à Saint-Hyacinthe. Donc, il est au début de l'histoire de l'église de Saint-Hyacinthe, que vous connaissez peut-être de notre association. Et donc, très, très jeune ouvrier, ça faisait quelques années qu'il s'était converti, il n'avait pas toutes les compétences, l'expérience requise, mais c'était une période comme ça où il y avait beaucoup, beaucoup de conversions, et puis on manquait d'ouvriers. Et lui-même, là, c'est lui-même qui me dit, il dit « j'étais pas du tout qualifié pour le travail, j'ai fait 1 million d'erreurs ». Et puis l'Église a été très patiente, puis Dieu a béni le ministère là-bas. Ensuite de ça, il est venu comme pasteur à Longueuil. À l'époque, on était sur la rue Lafayette, ceux qui étaient avec nous. Qui était avec nous sur la rue Lafayette? Il y en a quand même 4-5 sur la rue Lafayette. Après ça, sous la direction de Richard, on est déménagé sur la rue Lassalle. Et puis, sans retourner dans l'histoire, à travers une crise, ça a vraiment fini difficilement ici, là, à travers une crise, des questions doctrinales, tout ça. Richard a dû quitter. Il s'est humilié, il a vraiment protégé l'Église, dans le sens qu'il a confié le ministère à M. Keefe, il a cédé sa place, et puis Dieu l'a restauré, puis il est allé comme pasteur à l'Église de Granby. Beau ministère à l'Église de Granby avec François Picard, puis ensuite de ça, quand François est devenu directeur de Sambec, c'est Richard qui a continué à s'occuper de l'Église de Granby. L'Église a vraiment grandi, ils ont développé. Sous le ministère de François et de Richard, ils ont développé vraiment une approche régionale. Donc, c'est particulier. La région de Granby est unique au Québec en termes d'évangélique. Là. C'est la place au Québec où il y a le plus d'églises évangéliques concentrées dans cette région-là. Et pendant longtemps, ça nuisait en quelque sorte au témoignage dans la région des chrétiens parce qu'il y avait beaucoup de divisions. Et donc, l'église du Flambeau, où étaient François Picard puis Richard Roule, ont vraiment été initiateurs d'un mouvement où ils ont appelé les pasteurs des différentes églises. Ils ont commencé à prier ensemble. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a une dizaine ou une douzaine d'églises qui travaillent ensemble. Elles sont autonomes. Elles ont chacun leur responsabilité à prendre soin de l'église. Mais elles font beaucoup d'activités ensemble, partagent des ressources, vont prier régulièrement à l'hôtel de ville avec la bénédiction du maire puis des conseillers. Ils vont prier dans la salle de la mairie pour la ville, tout ça. Donc, c'est un beau témoignage. Puis Richard, ensuite de ça, a quitté Granby, convaincu qu'il avait un appel, Janice et lui, pour aller implanter une église dans Ville-la-Salle. Et donc, ils ont travaillé conjointement avec une église à Châteauguay. Finalement, je pense que c'est plus un projet qui est leur projet à eux. Mais donc, ils travaillent dans Ville-la-Salle. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Ville-la-Salle, mais c'est vraiment multiethnique, énormément. 41% de la population, ce sont des Québécois de souche, d'accord? Donc, près de 60% de la population ne sont pas des Québécois de souche. Alors, c'est une église qui va avoir une saveur différente, c'est un ministère qui est différent, une approche qui est différente. Une des grandes qualités de Richard, c'est qu'il est enseignable. Et donc, il a su se renouveler à travers les années. Où je m'en vais avec ça, c'est que dans son approche à l'implantation de l'église à Ville-la-Salle, il a su s'adapter un peu avec ce que les églises réalisaient, comment la culture changeait. Quand Richard a implanté l'église à Saint-Hyacinthe, à l'époque, on faisait du porte-à-porte. Ça fonctionnait pas toujours, mais on faisait des portes, tout ça. On allait dans des parcs, on chantait avec Gibec. Moi, j'ai fait ça, j'ai fait Bécomo complet à faire des portes. Fait que c'était comme ça qu'on faisait à l'époque. Puis progressivement, on a senti que ça fonctionnait de moins en moins. Et dans les 10-12 dernières années, de plus en plus d'églises vont chercher à continuer à témoigner, à annoncer exactement le même message, mais à servir dans la communauté, à donner un coup de pouce, venir faire une différence, prendre leurs ressources bénévoles, puis juste devenir un agent de changement sans penser qu'on est appelé à changer la culture. On peut pas racheter la culture. C'est Christ qui va le faire lorsqu'il va venir au jour dernier. Puis autrement, il fait cœur par cœur, personne par personne. Mais il y a quelque chose du témoignage de l'Évangile qui est là. Et donc, dans l'approche de l'implantation de l'Église de Ville-la-Salle, c'est ce qu'ils font. Dans vos notes, vous l'avez en résumé à la première page. Alors, c'est quoi les valeurs centrales de cette implantation-là? L'évangile de la grâce de Dieu, l'humilité spirituelle qui se manifeste par une vie de prière active. Si vous connaissez Richard, vous comprenez, c'est vraiment un homme de prière. La formation de disciples qui suivent la personne de Jésus-Christ, la ressemblance à la personne de Jésus par l'étude de la parole et l'œuvre de l'Esprit, l'initiation et la participation à des œuvres de bienfaisance dans la communauté environnante, une église multiethnique qui est à l'image de l'arrondissement, et puis un amour et un souci sincère pour le bien de la ville. Alors, ils sont déjà un bon témoignage dans Ville-la-Salle. Ils sont un petit groupe, là. Il y a deux groupes de quartier qui composent cette église-là. Ils se réunissent ensemble le dimanche au cégep. Ils sont un petit groupe, peut-être 30-40 personnes environ. Ils ont déjà un bon témoignage. Richard est connu par le maire d'arrondissement, il est connu par les responsables là-bas, il cherche des occasions de donner un coup de main. Ils ont plusieurs personnes qui sont ouvertes à l'Évangile. Richard est vraiment un évangéliste aussi. Fait que ça va bien. Maintenant, vous avez des requêtes de prière, parce que le défi particulier, c'est le fait que c'est multiethnique. Alors, pour ça, ça a été un défi, là, les 2-3 premières années, là. Si vous connaissez Richard, c'est un vrai Québécois. Vous l'avez déjà entendu prêcher ici, là. C'est un Québécois de souche qui a de l'air d'un Québécois de souche, qui parle comme un Québécois de souche. C'est un gars super intelligent, mais c'est ça. C'est un gars de Saint-Hyacinthe. Fait que, ça a été vraiment une adaptation pour eux. Et donc, l'Église est en train de vivre ça. Je sais qu'un des défis particuliers, c'est de développer des leaders. Donc, vous avez quelques requêtes à la deuxième page. Prier pour un bon suivi spirituel des contacts déjà établis dans le quartier et la création de nouveaux liens. Que Dieu puisse ouvrir les portes pour des locaux mieux adaptés à nos rencontres. Donc, ils ont l'œil sur certains locaux en particulier. Que Dieu puisse ouvrir les portes. Le renouvellement des forces de Richard et Janice qui sont dans la soixantaine. D'accord? Il a commencé dans le ministère en 1975. C'est bon? Fait que c'est vraiment des gens qui persévèrent dans le temps. Et la formation de leaders passionnés pour l'Évangile et la croissance en milieu urbain. De la sagesse et du discernement dans nos rapports avec notre voisinage qui est culturellement très hétérogène et différent du nôtre. Un des défis dans les petites églises en implantation qui partent comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont partis puis ils étaient 10 au départ pour implanter l'église. Un des grands défis, c'est de développer des leaders parce que une église qui commence à 10 va probablement mettre facilement 10 à 15 ans à monter à 100 personnes. D'accord? Et donc, il y a des gens qui acceptent le Seigneur. Ils ont des enfants, petite église, il n'y a pas de ministère à l'enfance solide, des choses comme ça. Il y a toutes sortes de raisons qui font que tu t'investis dans des personnes, puis il faut que tu les laisses prendre leurs décisions. Si Dieu les appelle ailleurs, s'ils ont la conviction qu'ils doivent aller ailleurs, il faut que tu les laisses aller. Mais c'est vraiment un gros défi. D'accord? Dans une assemblée comme la nôtre, il y a toujours quand même des leaders potentiels. On manque toujours de leaders. On en cherche toujours à notre grosseur. D'accord? On est à peu près 400 là, dans l'ensemble. Puis on est comme 5 sur le conseil, 6 sur le conseil. Fait qu'on cherche toujours des leaders. Imaginez dans une église de 100 personnes. Donc, je sais que c'est un défi parce qu'il y avait un leader solide avec lui. Finalement, le frère a eu la conviction qu'il devait aller implanter lui-même une église. Fait qu'il travaille avec nous, avec l'association, mais pour Richard, c'est « OK, on recherche une autre élève. » Puis là, il est dans la soixantaine. Fait que quand tu arrives là, tu te dis « C'est pas moi qui est là pour 15 ans. Là. Ça me prend quelqu'un qui va prendre la relève de l'église. Tu veux laisser l'église la plus structurée possible. » Fait que si on prend Antonio et Hélène Bascounan, qui ont implanté une église fille là-bas, et ça leur a pris la transition, je dirais, à peu près 4 à 5 ans pour réussir à mettre en place le leader qui prend la relève. Puis là, ils ont complété ça. Ça, c'est terminé. Donc, ils sont en paix, ils peuvent quitter, puis envisager une autre implantation. Mais donc, ça vous donne une idée. D'accord? Fait que les sujets de prière, c'est la santé, que Dieu les aide vraiment à percer au niveau du fait que c'est multiculturel et que Dieu donne des leaders. Je vous dirais que c'est les requêtes essentielles. C'est bon? C'est vraiment des beaux modèles, des gens qui sont vraiment passionnés pour le royaume de Dieu. Alors, la citation que je veux rappeler à chaque semaine dans le cours, le but suprême de l'Église n'est pas la mission, c'est l'adoration. On est d'accord avec ça? Maintenant, si la mission existe, si on voulait compléter la citation de M. Piper, on dirait que c'est parce que l'adoration n'existe pas dans tous les cœurs. D'accord? Alors, le but de l'Église, c'est pas la mission, c'est l'adoration. Mais l'Église est en mission parce qu'il y a des cœurs sur la terre qui ne sont pas en adoration. Puis notre mandat à nous, c'est de les conduire vers l'adoration. Et ça nous demande à nous déjà d'être des adorateurs, déjà passionnés pour la personne de Dieu. On termine la leçon sur la prière. Piper a des citations marteaux. Il dit « Nous ne pouvons pas savoir à quoi sert la prière tant que nous n'avons pas compris que la vie est un combat. » Et ce matin, on va se concentrer sur le fait que la prière souligne, met l'accent sur le fait que toute la mission dépend de la puissance de Dieu. Et toute la mission est là pour la gloire de Dieu. Et donc, c'est logique, c'est sensé de dire que la prière est au cœur de la mission si la mission dépend de la puissance de Dieu et si elle doit servir à la gloire de Dieu. Si on n'avait pas besoin de Dieu pour faire la mission, on n'aurait pas besoin de la prière. Mais Dieu a décidé que ce ne serait pas comme ça que ça se passerait et on va développer ça ensemble ce matin. Avant de monter au ciel, Jésus dit à ses disciples, dans Matthieu 28, 19 et 20, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, toute la puissance, la progression de l'évangélisation, de faire des disciples, d'implanter des églises, allait reposer sur la puissance de Christ. Ça allait dépendre de la puissance de Dieu. C'est lui qui a tout pouvoir, c'est lui qui a toute autorité, c'est lui qui règne. Et donc, il nous accompagne à tous les jours. Déjà, ça nous pointe dans la direction de la prière. Quand je suis là, puis je suis en train de donner le cours « La foi chrétienne expliquée » avec des gens de Bouffe pour tous, puis il y a quelqu'un que je ne vois plus. La personne, elle venait, on avançait, elle avait de l'air enthousiaste, puis tout d'un coup, elle disparaît. Puis quand je la croise à Bouffe pour tous, c'est comme « Salut, mais un petit peu distant. » Tu sais, je sens qu'il y a peut-être un malaise, je ne sais pas, j'essaie de le lire, peut-être je me trompe. C'est Christ qui fait l'œuvre. C'est lui qui appelle. C'est lui qui sauve. Et donc, je vais aller dans la prière. Moi, personnellement, j'ai tendance à être extrêmement anxieux parce que je prends les choses sur mes épaules. L'Église ne va pas bien, c'est de ma faute. Il y a quelqu'un qui ne répond pas bien, c'est de ma faute. J'ai besoin constamment de me rappeler, c'est l'œuvre de Christ, c'est pas mon œuvre à moi. Et la prière me ramène là, d'accord? Je l'ai vécu, là, ce que je vous partage, je l'ai vécu. Puis là, La dame apparaît mercredi, puis elle dit, « Hey, je suis là, je veux faire le cours, qu'est-ce qui se passe? » OK, j'ai amené quelqu'un. « Wow, OK, t'as amené quelqu'un. » Je ne savais pas si elle l'avait tiré par la crinière, ou tu sais, si était-tu là pour checker si elle s'était fait embarquer dans quelque chose de pas correct. Non, on commence à parler avec le monsieur, il est super intéressé. Il faut apprendre à juste laisser les choses entre les mains de Dieu, prier, puis laisser Dieu faire son œuvre. C'est lui qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Et donc, ce que Luc va faire à travers son évangile, c'est qu'il va démontrer cela. D'accord? Lorsqu'on arrive dans le livre des Actes, alors dans l'évangile de Luc, une des déclarations que Jésus fait, que Luc fait, c'est que tout ce que Jésus a fait, il l'a fait par la puissance de l'Esprit. Si vous lisez l'évangile de Luc, vous êtes attentif au ministère de l'Esprit envers Jésus. D'accord? Pas envers les gens, envers Jésus. Vous allez voir, c'est par la puissance de l'Esprit, c'est clairement souligné dans l'évangile de Luc. Lorsque j'arrive dans le livre des Actes des apôtres, ce que Luc va faire, c'est qu'il va faire la démonstration que la promesse que Jésus avait donnée, que la même puissance, le même Esprit qui était sur lui viendrait sur les disciples. Tout le livre des Actes, un des arguments du livre, c'est ça, c'est faire la démonstration que la même puissance, le même Esprit qui était sur Jésus est sur les disciples. Et donc, on va avoir des phrases comme celle-ci dans le livre des Actes. Le Seigneur ajoutait. Puis ça, c'est répété à plusieurs reprises. C'est Dieu qui ajoutait. Fait qu'on a les apôtres qui prêchent, on a les disciples qui annoncent l'Évangile, mais c'est le Seigneur qui ajoute. Nous, on prêche. Je donne le cours La foi chrétienne expliquée. On a des belles conversations avec les gens. Quand quelqu'un répond, c'est le Seigneur qui ajoute. C'est lui qui conduit la personne. D'accord? Et donc, ça, c'est un des arguments de Luc. Paul va le développer ensuite. Il va le développer dans son ministère puis dans sa sanctification personnelle. Il va souligner encore le fait que c'est par la puissance de Dieu, c'est pas par sa puissance. Non pas moi toutefois, mais la puissance de Dieu qui est avec moi. Si vous regardez Romains 15, verset 18-19, « Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait faite par moi. » Donc c'est Christ qui l'a fait pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. Par la parole et par les actes. D'accord? Donc, il prêche. Il donne un témoignage concret. Les gens voient la différence entre les chrétiens et le monde. C'est très, très clair. Mais c'est Christ qui l'a fait à travers lui. C'est pas lui qui l'a fait. Par la puissance des miracles, par des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. En sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'Évangile de Christ. C'est qui a répandu l'Évangile? C'est Paul. Il a dit, j'ai répandu. Mais c'est par quelle puissance? C'est par l'Esprit de Dieu. Voyez-vous? Donc, il y a vraiment cet accent-là super présent. Et si Paul pouvait rêver aussi grand à la mission, puis être aussi visionnaire, c'est parce qu'il avait la conviction que c'était par la puissance de Dieu, par la puissance de Christ, et par la puissance de l'Esprit Saint que cette œuvre-là allait s'accomplir. Si j'y crois pas, je peux pas avoir de vision. Tu peux avoir un rêve que Dieu va sauver plein de gens à Longueuil si je ne crois pas dans la puissance de Dieu. Ce ministère prospère pour l'Évangile, Paul l'attribue à Dieu. Il refuse même de s'approprier la gloire qui revient à Dieu seul, même dans le domaine de sa propre sanctification personnelle. Alors regardez la prochaine page, à page 3. « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » On a vu la semaine dernière, la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est la bonté de Dieu. Hein? Par les faveurs de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus qu'eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. On a encore vraiment là, j'ai travaillé, non pas moi, la grâce de Dieu. Oups, la grâce de Dieu qui est en moi, d'accord? Et même dans sa sanctification, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est par la grâce de Dieu, c'est même dans sa sanctification. C'est donc par la grâce, c'est donc la grâce de Dieu qui a œuvré en lui alors qu'il mettait ses propres efforts à travailler pour le royaume. Fait que nous, on va mettre tous nos efforts. C'est correct que je me dise, cette semaine, comment je peux témoigner? Cette semaine, c'est quoi mes opportunités? C'est correct que je sois à l'affût. C'est correct que je me prépare, que je mémorise des passages dans les Écritures. C'est correct que je parte d'une conversation puis je dis, elle n'a pas bien tourné celle-là, ça comme... Il me semble que ma réponse n'était pas bonne, c'était pas clair, puis que je prenne le temps de décortiquer ça, puis dire une autre fois, je dirais peut-être ça comme ça. C'est très bien de faire ça, c'est important. Paul disait à Timothée, étudie les Écritures, vas-y, étudie. Mais en même temps, On doit développer une conviction profonde que toute ma préparation, puis toute mon expertise, puis tout ça, c'est pas ça qui va faire que Dieu va ajouter des gens à l'Église, c'est la puissance de Dieu. C'est sa puissance. Moi, j'ai tellement besoin de grandir dans ça, pour juste pas porter toutes les choses sur mes épaules, puis vraiment les remettre à Dieu. Les apôtres l'expriment comme ceci dans 1 Pierre 4, 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Donc, on s'en va vers le but, là. On y vient. Maintenant, la nouvelle alliance. Alors, nous, on est sous la nouvelle alliance. Qu'est-ce que ça vient changer par rapport à la mission? Un million de choses. La mission est beaucoup plus claire pour nous qu'elle ne l'était pour Israël, dans le sens que l'idée d'aller vers les nations n'était pas aussi évidente pour Israël. Mais il y a des promesses que Dieu donne par rapport à la nouvelle alliance. Puis c'est peut-être la partie qui va vous challenger le plus personnellement, d'accord? Parce qu'il y a des promesses où tu dis, « Seigneur, j'ai hâte de les voir accomplir, tes promesses. » Les apôtres savent que Dieu honorera ses promesses faites en vertu de la nouvelle alliance qu'il a faite avec les hommes qui placeraient leur foi en Jésus-Christ. Donc, on lit dans 2 Corinthiens 3, 6, « Il nous a aussi rendus capables, c'est lui qui le fait, d'être ministre d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Dieu avait promis dans l'Ancien Testament qu'il arriverait à bout de nos cœurs déchus. Dieu l'avait promis. Avec la nouvelle alliance, par une œuvre nouvelle, différente de l'Esprit de Dieu, il allait nous donner un cœur nouveau. L'Esprit viendrait faire sa demeure en nous et il viendrait à bout de nos cœurs déchus. C'est là que je vous dis que vous allez peut-être être mis au défi dans votre foi. Ézéchiel 36, 26, 27. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Cette semaine, j'ai dit au Seigneur, j'ai hâte que tu fasses ça. J'ai hâte que tu fasses ça dans mon cœur. Vraiment. C'est une belle parole, Seigneur. J'ai vraiment hâte que tu le fasses. Et je pense que c'est un des domaines où... On doit veiller sur notre sanctification personnelle parce que ça peut tuer notre zèle pour la mission lorsqu'on ne voit pas Dieu faire son œuvre dans nos cœurs. Puis on devient la tentation pour nous de devenir cynique puis de dire, Seigneur, t'es comme, si tu ne me changes pas, je ne vois pas comment tu vas changer mon voisin puis comment tu vas transformer un collègue. Puis, donc, on doit veiller sur ça. Et personnellement, une des choses que je fais assez souvent, c'est que je considère ce que Dieu a fait jusqu'à présent dans ma vie. Au lieu de garder juste les yeux fixés sur tout ce qui reste comme changement à faire dans mon cœur, je regarde la personne que j'étais puis la personne que je suis maintenant. Et la personne que j'étais alors que je ne connaissais pas Christ puis la personne que je suis maintenant sont deux personnes extrêmement différentes. Ce qui me passionne puis ce qui dynamise ma vie puis ce que je poursuis, c'est pas la même chose que je poursuivais lorsque j'étais pas chrétien. Et ma réception, mes remises en question, mon désir de ressembler à Christ, mon désir de sainteté, c'est pas le même qu'avant. Maintenant, si je fixe les regards sur où je suis rendu, boy, que ça peut être décourageant. Ça peut être tellement décourageant. Mais donc, les apôtres avaient la conviction. Ils étaient convaincus que Dieu avait donné des promesses qui étaient en relation avec la nouvelle alliance. Et ça vient changer ta vision de la mission. Tu crois que Dieu est capable de sauver des âmes. Que Dieu est capable de faire un 180 degrés, volte-face à quelqu'un qui va boum, complètement changer de direction puis qui va se mettre à suivre Christ. Tu crois ça. Parce que tu crois dans les promesses de Dieu envers la nouvelle alliance. Puis encore une fois, c'est ça que Luc cherche à souligner dans les Actes. Alors, deux versets ici, c'est comme si Luc veut faire la preuve de ça en interprétant ce qui est en train de se passer. Acte 11, 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant « Dieu a accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. » C'est lorsque Pierre revient et fait l'annonce des conversions, tout ça chez les païens. Puis là, ils disent « Ok, c'est Dieu qui a fait ça. » C'est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui a accordé la repentance aux païens. C'est l'œuvre de Dieu. Dans Actes 16, 14, l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Fait qu'elle va bien répondre à l'Évangile. Puis Luc dit, c'est le Seigneur qui a fait ça. Sa réponse, son cœur qui s'est ouvert, c'est le Seigneur qui a fait ça. C'est pas les prédicateurs qui ont fait ça. La prière est là pour démontrer que Dieu est engagé dans la mission puis que Dieu est l'agent principal de la mission. Donc, on prie pour Richard Hull. On prie pour Richard Hull parce qu'on croit que même s'il est pasteur depuis 1975 puis que c'est un bon enseignant de la parole de Dieu puis il est passionné pour Dieu, il ne pourra pas faire des conversions. On prie pour lui, pour que Dieu lui donne du courage. On prie pour lui, pour que Dieu ouvre les portes. On prie pour Janice, pour que le Seigneur bénisse son témoignage là-bas. La prière nous est donnée afin de nous rappeler constamment que Dieu est au cœur de la mission et qu'il en est l'agent principal. C'est vraiment mystérieux, la prière. C'est Dieu qui a la puissance. Pourquoi il faut qu'on soit là-dedans? Pourquoi il faut qu'on soit engagé là-dedans? J'ai pas vraiment d'autres réponses que sinon, Dieu veut nous faire participer à sa gloire. Tu sais, Dieu veut pas simplement qu'on soit comme... Dieu n'a pas fait comme un film extraordinaire qui présente Dieu, son œuvre, puis tout ce qu'il fait. Puis devenir chrétien, c'est rentrer dans la salle de cinéma, puis s'asseoir, puis dire « Waouh, Dieu, t'es merveilleux ». C'est plus que ça. Il tenait absolument à ce qu'on participe à sa gloire, à ce qu'on participe à l'avancement du royaume, à ce qu'on soit des agents. On va le voir un peu plus loin. Dieu agit en réponse à la prière. C'est mystérieux, c'est lui qui a toute la puissance. Il est plus sage, il est plus intelligent que nous. Je prie, puis il faut que le Saint-Esprit travaille mes prières pour qu'elles aient de l'allure. Comprenez? Donc, pourquoi finalement tu te donnes autant de troubles que ça? Parce que Dieu est bon, parce qu'il est amour, puis il veut que nous, on participe, qu'on se réjouisse avec lui de sa gloire, qu'on participe avec lui à sa gloire. Donc, on lit dans le psaume 50, verset 15, « Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Charles Spurgeon résume ça comme ceci. « Dieu et l'homme qui prie se répartissent la tâche. Voici d'abord la vôtre. Invoque-moi au jour de la détresse, puis celle de Dieu, je te délivrerai. Il s'agit de la convention de l'alliance conclue entre Dieu et vous. Quel remarquable partenariat! Nous obtenions ce dont nous avions si grand besoin, et tout ce que Dieu reçoit, c'est la gloire due à son nom. » Dieu n'a pas besoin de me dire « prie, puis je vais répondre. » Dieu sait ce que j'ai besoin. Avant que je le demande, il sait ce que j'ai besoin. C'est ça que les Écritures me disent. Mais il a décidé que ça allait se passer comme ça. Parce qu'à quelque part, on est dans une relation dynamique. C'est vraiment une relation vivante. Puis je vais prier, puis je vais voir Dieu répondre à mes prières. Puis parce que je vais le voir répondre à mes prières, je vais le bénir, puis je vais l'honorer. Puis quand Dieu va bénir le travail de mes mains, de ma bouche, pour conduire des âmes à Christ dans ma famille, mes enfants, les instruire dans la foi, puis ils vont se convertir, je vais rendre la gloire à Dieu. Ce ne sera pas l'œuvre de Yannick ou d'Esther. Ça va être celle de l'Esprit-Saint dans ma famille, pas la mienne seulement. La prière sert à glorifier le Père. Jésus enseignait à ses disciples que la prière avait pour effet et pour but la gloire de Dieu le Père. Alors dans Jean 14, 13, on lit « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Je l'ai mentionné la semaine dernière, quand Daniel Anderson était venu nous enseigner sur la prière à l'Église de l'Espoir, on était sur la rue Lassalle à l'époque, puis c'est resté, moi ça m'a frappé, puis je pense qu'on l'a beaucoup dit dans l'Église, manquer de prière, c'est une déclaration d'indépendance envers Dieu. D'accord? C'est comme si je disais que je n'avais pas besoin de Dieu. C'est vrai. L'autre facette de cette pièce-là, c'est que si je manque de prière dans ma vie, je manque l'opportunité de rendre la gloire à Dieu. Ce n'est pas juste que je suis indépendant de lui, c'est que mon cœur comme adorateur manque cette opportunité de lui rendre gloire. On prie pour que Dieu réponde et qu'il soit glorifié à travers la prière. Lorsqu'on se rassemble en église le dimanche matin, puis on se donne des nouvelles, « Hey, tu priais pour telle personne, tout ça, le Seigneur a ouvert son cœur, puis on est en train de cheminer, tu priais pour un emploi. » Cette semaine, j'ai une sœur qui m'a écrit, ça faisait quelques semaines, on priait ensemble pour son travail, puis elle m'a écrit, elle dit, « Génial, le Seigneur a répondu. » C'est la réponse à nos prières. Elle n'aurait pas été chrétienne, on n'aurait pas prié comme ça, elle aurait dit, « Enfin, je me suis trouvé une job. » C'est pas faux, tu sais. « Enfin, je me suis trouvé une job. » Oui, mais la version d'un chrétien, c'est « Oui, mais c'est le Seigneur qui a répondu. C'est le Seigneur qui a pourvu à travers ça. » Mais, ça ne s'arrête pas là. Donc, le but, ce n'est pas seulement la gloire de Dieu, c'est autre chose aussi, c'est la joie et le bonheur des hommes. Alors, Jean 16, 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Qu'est-ce que vous voyez le thème qu'on avait dans le premier chapitre du livre où on disait Dieu fait toutes choses pour sa gloire et il le fait pour notre bonheur parce que notre plus grand bonheur se trouve dans la gloire de Dieu. On trouve la même chose ici avec la prière. On prie pour que Dieu soit glorifié, mais Dieu répond à nos prières aussi pour que nos cœurs soient dans la joie, d'être dans cette relation-là dynamique avec Dieu. Ça nous apporte de la joie de voir que Dieu est là, Dieu est vivant, Dieu répond à nos prières. Puis oui, il y a des prières, des fois que je vais prier pendant 20 ans, pendant 30 ans. Mais focussez pas seulement sur celle-là. Priez pour un million de choses, priez pour plein de personnes. Vous allez voir, Dieu va répondre à des prières, puis ça va fortifier votre foi pour les prières auxquelles ça prend plus de temps à répondre. Donc, c'est vraiment dynamique, c'est une relation. Si vous voulez aller beaucoup plus loin sur la prière, là, personnellement, le meilleur livre que j'ai lu depuis de nombreuses années sur la prière, c'est celui que Tim Keller a sorti l'année dernière sur la prière. Je ne suis pas sûr s'il est déjà traduit, là. Je ne voudrais pas vous induire en erreur, mais vraiment bien comme méditation, puis très, très balancé. Parce que souvent, avec la prière, là où les gens tombent, c'est dans une espèce de mysticisme. Il y a toute une théologie pratique de l'expérience de la prière. Qu'est-ce que je suis censé ressentir quand je suis dans la prière? Puis là, il y a toute une espèce de théologie qui est ishiwashi, qui n'a rien à voir avec les Écritures. Je n'ai pas besoin nécessairement de ressentir toutes sortes de choses mystiques. Peut-être, des fois, mais ce n'est pas nécessaire. Puis c'est vraiment très biblique. Il va aussi quand même dans ça. Pour Tim Keller, ce qu'un chrétien expérimente dans la prière, c'est l'intimité de la relation avec Dieu. Donc, la parole me nourrit, puis dans la prière, l'écho de la parole dans ma tête, avec mes propres sentiments, puis là, j'entends la parole qui confronte des pensées, puis là, je soumets mon cœur à la volonté de Dieu, puis je dis « Oui, Seigneur, c'est vrai, tu as raison. » Ça, c'est l'intimité de la relation avec Dieu, parce que l'Esprit-Saint est en train d'appliquer la parole dans mon cœur, challenger des pensées, m'amener à la repentance, je me soumets à Dieu, je commence à l'adorer. Ça, je vais vivre ça dans la prière. Je ne le vis pas seulement quand je lis la parole. Je ne sais pas si vous voyez la nuance entre les deux. C'est-tu clair? Quand je lis la parole, je reçois quelque chose, je suis confronté. Ça se peut à ce moment-là que je dise « Ah oui, je veux me soumettre à ça. » Mais quand je vais dans la prière, je vais prendre ça puis je vais en faire un dialogue avec Dieu. C'est-à-dire que je vais parler avec Dieu. Je vais dire « Je reçois cette parole-là que tu m'as donnée ce matin, aujourd'hui, Seigneur. » Puis je vois l'œuvre qu'il a fait dans mon cœur, puis je veux me soumettre à ça, puis je veux répondre à ça aujourd'hui. Puis pour ces raisons-là, je t'adore. Pour ces raisons-là, je veux te servir. Pour ces raisons-là, oui, Seigneur, je vais aller vers telle personne, puis je vais aller demander pardon. Tu m'as convaincu ce matin, tu m'as parlé. C'est l'Esprit qui est en train d'appliquer sa parole dans mon cœur. Vous avez des doutes là-dessus? Donnez une Bible à un non-chrétien, puis regardez ce que ça fait. Essayez-le. C'est l'Esprit qui vient appliquer sa parole dans mon cœur. D'accord? Et donc, c'est vraiment tout ce volet très, très dynamique-là à la vie de prière qui sert à la fois à la gloire de Dieu puis à la fois à notre plus grande joie à nous. Au bas de la page 4, c'est la raison pour laquelle la mission, je m'excuse, il y a une petite faute ici, progresse par la prière. Nous avons vu que le but suprême de Dieu est de se glorifier lui-même. Comment compte-t-il le faire? En faisant triompher souverainement son objectif missionnaire, à savoir que les nations l'adorent. Et comment compte-t-il assurer cette victoire? En s'engageant dans le combat, en devenant même le combattant principal. Donc Dieu va, les âmes vont se convertir en réponse à la prière, puis ça va être l'œuvre de Dieu qui va être en réponse à la prière, puis Dieu va être glorifié à travers ça. Fait qu'il y a quelques exemples, je les lirai peut-être pas toutes parce que je vais manquer un petit peu de temps, mais je vous ai donné des exemples comment les chrétiens priaient, les premiers chrétiens priaient pour voir Dieu à l'œuvre à travers la mission. Ils invoquent Dieu, je suis au haut de la page 5, pour qu'il élève son nom dans le monde. Exemple, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est une prière missionnaire, on l'a dit. Ils invoquent Dieu pour qu'il étende son royaume dans le monde, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ils invoquent Dieu pour qu'il fasse justice à ses enfants dans leur combat. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Donc c'est de la prière. Ils invoquent Dieu pour qu'il guérisse les incroyants. Peux-tu prier pour que Dieu guérisse un non-chrétien? Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. D'accord? Ils invoquent Dieu pour qu'il pourvoie aux besoins élémentaires de ses troupes. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ils invoquent Dieu pour qu'il établisse des leaders aux avant-postes. Ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Ils invoquent Dieu pour parvenir à une meilleure connaissance de lui, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance. Ils invoquent Dieu pour qu'il augmente leur foi. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de ma foi. » En sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, afin qu'il soit enraciné et fondé dans l'amour. Donc, c'est une prière de Paul pour les chrétiens d'Éphèse. Fait que les chrétiens priaient pour la mission. Quand ils priaient pour eux-mêmes, ils priaient pour la mission. Quand ils priaient Dieu, que son nom soit glorifié, ils priaient pour la mission. Ils étaient convaincus que Dieu était l'agent principal de la mission. C'était constamment là dans leur esprit. C'est ce qui fait que Luc commente la mission, puis il dit, c'est Dieu qui ajoutait, c'est le Seigneur qui ajoutait à tous les jours ceux qui étaient sauvés. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Avant tout, ce n'est pas notre œuvre à nous. Maintenant, un correctif ou un point d'équilibre vers la fin de la leçon. La prière, ce n'est pas la mission. La prière, ce n'est pas la mission. La prière est au cœur de la mission parce que Dieu est l'agent principal de la mission. D'accord? La prière est essentielle à la mission. C'est Dieu qui fait que les gens se convertissent. Mais l'élément fondamental, central de la mission, c'est quoi? C'est proclamer la parole de Dieu. C'est annoncer la parole de Dieu. Et donc, lorsqu'on pense à la mission, c'est à ça qu'on doit penser premièrement. On va annoncer la parole de Dieu. On va porter Christ en parole et en acte, nous disent les Écritures. Et parce qu'on sait que même si on fait ça comme les meilleurs prédicateurs du monde, les gens vont se convertir uniquement par la puissance de Dieu. Tout ça, c'est baigné dans la prière. Tout ça, c'est baigné constamment dans la prière. Constamment, on est en train d'englober ça en priant. Je parle à mes enfants, je vois quelque chose qui ne va pas, je vais adresser quelque chose avec les Écritures, je leur partage ça, je baigne ça dans la prière. Et lorsque je ne le fais pas, souvent je le fais mal. C'est hier, j'ai adressé quelque chose, puis là, je suis parti, puis j'ai dit, boy, que c'était négatif ce que j'ai dit là, c'était maladroit. J'aurais dû prier avant d'ouvrir la bouche, tu sais. Juste pour que Dieu me dirige, puis que je fasse ça autrement. Bon. J'ai eu la conviction que j'avais mal fait, je peux réparer, mais quand même je l'ai fait. Fait que on baigne ça dans la prière. Alors, la mission, ce n'est pas la prière. La mission, c'est proclamer la parole de Dieu. Cette proclamation-là n'a pas de puissance si Dieu ne répond pas, et Dieu ne répondra pas si on n'est pas en train de prier. Donc, la prière est essentielle. Mais la mission, c'est annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. En fait, j'aurais pu vous lire la citation de Piper, qui le résume sûrement mieux que moi. « Permettez-moi, au haut de la page 6, par conséquent, de dire haut et fort que l'œuvre de la mission est avant toute chose la proclamation de l'Évangile en parole et en acte. La prière est la puissance qui permet de manier l'arme qui est la parole, et la parole est l'arme au moyen de laquelle les nations seront amenées à la foi et à l'obéissance. » Et la parole de Dieu, les promesses de Dieu peuvent pas manquer. Fait que c'est un dernier ingrédient qui doit nous encourager dans la prière. Je prie pour mes enfants, je prie pour mes voisins, je prie pour des gens avec moi à la bouffe pour tous, je prie pour de la famille. Et je veux continuer à prier pour eux, puis je veux continuer à leur annoncer l'Évangile. J'ai des promesses dans la parole. On lit dans Ésaïe 55, 10 et 11, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir été arrosées, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. » Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alors, Dieu se sert de nous. Dieu se sert de nous pour conduire des gens à Christ. Mais il ne va pas le faire parce qu'on prie. Premièrement, il va le faire parce qu'il a dit que ça allait se faire. Il a dit qu'il allait y avoir des gens de toutes les nations de la terre qui allait célébrer la gloire de Dieu, célébrer l'Évangile dans les cieux pour l'éternité. Et il l'a promis, ça va se produire. Je vous ai partagé un petit peu l'approche de missionnaire qui est d'aller vers les « unreached people ». Ça s'appuie sur cette promesse-là. Dieu a dit qu'il y aurait des gens de toutes les nations, de toutes les ethnies de la terre qui seraient en train de célébrer Jésus-Christ pour l'éternité. Mais on doit se faire un devoir d'aller rejoindre celles qui ne sont pas rejointes encore. Il a promis qu'il allait le faire. On sait qu'il va bénir cette œuvre-là. Il va le faire. Peut-être que ce ne sera pas de mon vivant, peut-être que ça va être dans 50 ans, peut-être que ça va être dans 100 ans, je ne sais pas. Mais Dieu va le faire. Il va sauver des gens de toutes les nations. Donc lorsque les chrétiens, on arrive devant... Vous êtes au travail, vous avez des collègues de travail, puis il y a quelqu'un qui arrive d'une autre culture complètement. Puis vous dites, comme j'arrive tellement pas à connecter, c'est comme s'ils sont dans un autre monde, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on n'a pas... C'est un être humain comme toi, mais la culture, la différence culturelle est tellement grande que ça monte comme des murs. Là, tu dis, qu'est-ce que je vais faire? Il va y avoir des gens de toutes les nations de la terre qui vont célébrer Jésus-Christ. Et donc, je peux prendre la promesse de Dieu et dire, Seigneur, c'est peut-être un de ceux que tu as donné à ton fils. Fait que je vais ouvrir la bouche et je vais prier avec cette conviction-là que Dieu va honorer sa parole et ses promesses. Quelle est la place véritablement extraordinaire de la prière dans le dessein de Dieu? Juste pour boucler la boucle, la puissance de l'œuvre de la parole de Dieu, qui est absolument fiable et digne de confiance, se manifeste en réponse à nos prières. C'est ça la place extraordinaire de la prière. Dieu parle, ça va se faire, il le dit. Mais il a décidé que ça allait se faire à travers les prières des saints, en réponse à nos prières. Alors, quelques versets... 2 Thessaloniciens 3:1 « Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment, ça veut dire avec du courage, la hardiesse, et librement le mystère de l'Évangile. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte. » Ce n'est pas juste pour le messager, c'est pour les cœurs. « En sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. » Je vous rappelle cette citation de John Piper, « La prière est le walkie-talkie de l'Église au service de la parole sur le champ de bataille qui est le monde. Ce n'est pas un simple interphone intérieur destiné à améliorer le confort temporel des saints. Elle fonctionne mal entre les mains des soldats qui ne répondent plus à l'appel. Elle est destinée à ceux qui sont en service actif. » Vendredi soir, Restant et moi, on a écouté un film. Je fais rarement des recommandations de films. Je vais vous en faire une. Très violent. Vraiment, vraiment, vraiment violent. Fait que si vous n'êtes pas capable, ne regardez pas ça. Le début du film est terrible. D'accord? C'est Hacksaw Bridge. Je sais pas, est-ce qu'il y en a qui ont vu ça? Hacksaw Bridge. C'est l'histoire c'est une histoire vraie, c'est un fait vécu. Ça a été réalisé par Mel Gibson. Et puis, c'est l'histoire d'un objecteur de conscience qui, lors de la Deuxième Guerre mondiale, à cause de ses convictions puis à cause de son expérience familiale, son héritage familial, de violence à la maison, tout ça, avait la conviction, il avait fait un vœu à Dieu. Il a dit à Dieu, « Jamais je vais toucher à une arme de ma vie. Jamais. » Et puis, mais il a eu la conviction qu'il devait aller au front, il devait aller à la guerre. Fait qu'il s'est enrôlé en disant, « Je vais être infirmier. » Puis lorsqu'il a posé la question aux choses d'inscription, là, je vous donne pas de punch, là, Il a posé la question, est-ce que je vais pouvoir ne pas manipuler d'armes? T'sais? Puis on lui a dit, il n'y a pas de problème, tu vas être infirmier. Mais dans l'entraînement des infirmiers aussi, il doit faire du tir à la carabine. Fait qu'en tout cas, ça a été tout le conflit avec l'armée. Et puis cet homme-là, je vais vous donner un petit punch, mais écoutez-le, ça vaut vraiment la peine. C'est parce que c'est le cas, Hacksaw Bridge. Hyper violent, je vous le dis. Là. Venez pas me dire, le pasteur commande des films violents. Il est hyper violent, je vous le dis, OK? Ah, ça se peut? OK, tu ne tueras point. Merci. Cet homme-là, dans un moment terrible, parce que Hacksaw Ridge, je m'excuse, pas Bridge, Ridge, c'était vraiment comme une pente escarpée là, qui montait, puis lorsqu'il arrivait de l'autre côté, il était face aux Japonais. Et pendant une nuit complète, il va, alors que toutes les troupes se sont retirées, lui, il va rester là, puis il va descendre dans l'escarpement avec une corde des blessés. Et toute la nuit, il fait une seule prière. Quand il réussit à en prendre un puis de le ramener sans se faire tuer, il dit, « Seigneur, donne-moi-en un autre. » Ah, ben c'est bon, merci, merci Stéphane. Tu viens de me sauver, je vais être en paix ce soir. C'est gentil. J'ai tout de suite pensé à la liste de Schindler. Ou à la fin de la liste de Schindler, il est là, il veut ses boutons de manchette, j'aurais pu en sauver un autre, et tout ça. Mais Schindler, il allait comme par lui-même. Dans ce film-là, c'est sa prière. À toutes les fois qu'il en ramène un, « Seigneur, donne-moi-en un autre, Seigneur, donne-moi-en un autre. » 75 hommes qui ont descendu comme ça pendant la nuit, à lui tout seul. La prière, c'est à ça que ça sert. Ça sert à demander, « Seigneur, où je devrais aller en vacances cet été? » J'aimerais ça, tu sais, j'aimerais ça avoir un bon deal pour mes vacances, pas dépenser trop d'argent. Ça sert à ça. « Seigneur, je veux m'acheter une nouvelle voiture, puis... » Tu sais, j'aimerais ça, je ne sais pas si c'est ça, je ne sais pas si c'est le budget. C'est correct, ça sert à ça aussi, la prière. Mais honnêtement, ça, c'est la plus petite partie de la prière. La prière, pour de vrai, c'est un outil de combat. C'est un outil pour le front. Lorsqu'on est au front pour le salut de l'âme de nos enfants, de nos voisins, de nos collègues de travail, lorsqu'on prie pour les missionnaires. Et donc, je veux vous proposer quelque chose, puis vous allez avoir le temps d'y réfléchir. Mais je veux vous proposer que d'ici la fin du cours, vous ayez adopté un de nos missionnaires. D'accord? Vous pouvez le faire personnellement, vous pouvez le faire en famille, vous pouvez le faire en couple. Je veux vous proposer d'adopter dans votre cœur, pour la prière, un de nos missionnaires. Je sais, je suis convaincu de ça, notre Église, on n'est pas assez engagé individuellement envers nos missionnaires qu'on soutient, qu'on supporte. Et bon, ça peut être le fun d'être plus engagé ensemble envers eux, mais ce qui est plus important que ça, c'est que si on ne l'est pas, ça veut dire qu'on prie très peu pour eux. D'accord? On se réjouit de les supporter financièrement, mais ça veut dire qu'on prie en Église très, très peu pour eux. Alors, moi, je veux vous encourager. D'ici la fin, c'est pour ça, entre autres, que je vous présente des missionnaires à toutes les semaines. Jusqu'à présent, on a vu qui? Les Bolduc, Hugo est venu. On a vu les Walls. Je viens de vous parler de Richard et Janice Hull ce matin. Donc, d'ici la fin du cours, je vous invite à réfléchir puis à adopter un de nos missionnaires pour le porter dans la prière, leur envoyer, vous pouvez tous leur écrire, leur envoyer un courriel de temps en temps, « Je prie pour toi, ce matin j'ai prié pour toi », juste ça. Il va vous répondre, il ne vous répondra pas s'il n'y a pas le temps, mais considérez sérieusement de faire ça. C'est bon? Pour la semaine prochaine, vous devez avoir lu le chapitre 3 du cours. On va prier ensemble. Père éternel, merci. Merci Seigneur de nous enseigner sur la prière. Merci, Père, de nous accorder ce privilège-là incroyable, Seigneur, d'être engagé comme ça, alors qu'on n'est pas vraiment des agents si importants dans toute cette histoire-là. C'est toi, c'est la puissance de ton esprit. On peut convertir personne. Seigneur, on a de la misère à se transformer nous-mêmes. On s'appuie sur toi pour notre propre sanctification. Et pourtant, tu nous engages, Seigneur. Tu nous invites à participer à ton œuvre. Puis tu nous dis que tu vas faire des choses grandes et merveilleuses en réponse à nos prières, parce que ça va te glorifier, puis on va y trouver de la joie. Seigneur, alors qu'on fait un cours sur la mission, sur le salut des nations, viens, Seigneur, nous faire grandir dans notre vie de prière. En Église, fais-nous grandir dans notre vie de prière. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.